tes soins, tu nous as conduits encore dans ta présence. C'est parce que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu de nous. Nous avons cette assurance que tu es présent au rendez-vous. Papa, nous saluons ta présence et voilà pourquoi en ce moment, nous nous remettons à ta grâce. Nous voulons que tu puisses nous parler ce soir afin que nous puissions recevoir ta parole. Ouvre-nous et donne-nous les oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta parole parce que tu nous dis que tu es à la porte et tu frappes à la porte de notre cœur. Si nous entendons ta voix, que nous puissions ouvrir nos cœurs. Merci parce que ce soir encore, tu te révèles à nous à travers ta parole. Tu nous parles de ton amour parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont déjà connectés et les autres qui vont le faire tout à l'heure. Nous te bénissons, Papa. Nous demandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette soirée, que le Saint-Esprit seul, seul qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu, puisse nous parler ce soir, puisse transformer notre vie ce soir, puisse labourer nos cœurs, puisse conduire le modérateur, notre pasteur José Mbala. Seigneur, nous nous remettons à ta grâce. Viens, agis et nous sommes tes disciples, nous t'écoutons. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Merci, ma sœur, pour la prière. Nous allons lire les textes de ce soir qui fait suite à la portion que nous avons méditée hier. Dans 2 Timothée, chapitre 2, nous allons lire 5 versets, versets 8 à 13. Et c'est notre sœur Ruth qui va nous faire la lecture.
Bonsoir, frères et sœurs. Je lis dans la version 8 secondes. 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Et le titre est « L'exemple de Paul ». Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Amen.
Amen.
Voilà, frères et sœurs, merci ma sœur Ruth pour la lecture. C'est vraiment un texte très court, mais encore une fois, comme hier, un texte qui va nous aider à tirer le maximum possible de substances pour notre édification. Ce soir encore, nous sommes devant le Seigneur comme nous l'avons entendu dans la prière, mais aussi nous aimerions que nos cœurs restent totalement disposé à l'œuvre et à l'action du Saint-Esprit dont nous avons commémoré l'effusion encore hier. Nous voulons ce soir, frères et sœurs, nous rappeler avant de commencer le partage que cette portion des Écritures est un rappel que Paul fait à son enfant spirituel, Timothée. On peut sentir déjà avec le premier chapitre et ce que nous avons lu dans le deuxième chapitre jusqu'à présent, que Paul éprouve un très grand attachement à Timothée, qu'il responsabilise même dans le ministère, dans l'organisation des communautés déjà établies. Pendant que lui est emprisonné, il enjoint Timothée à persévérer, à prendre courage et à ne pas être découragé des difficultés qu'il voit Paul éprouver. Et c'est comme ça que Paul va appeler la vérité fondamentale de l'évangile qu'il prêche, comme nous avons vu hier. Et il va apporter aujourd'hui le contenu de cet évangile. Il va dire, rappelant à Timothée, qu'il doit se souvenir. Donc c'est pour un leader ou pour un disciple du Seigneur, oublier un seul instant pour qui ou pourquoi il doit travailler, c'est catastrophique. C'est pour cela que Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et dans ce verset-là, et la suite, il va nous montrer l'humanité de Jésus. Nous ne prions pas un être qui ne connaît pas les réalités de cette vie. Il nous a ressemblé, il nous connaît, mais aussi c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement comme nous, parce qu'il est d'une autre dimension. Il n'a pas péché et c'est ainsi qu'il a été ressuscité des morts. Donc son humanité, sa divinité, sa mort, sa résurrection, et c'est ça le contenu que Paul rappelle à Timothée de l'évangile qu'il apporte. Mais cet évangile, lorsqu'il est prêché, Paul rappelle à Timothée qu'il suscite inévitablement des souffrances, mais des souffrances dans lesquelles nous devons persévérer pour ne pas perdre la récompense qui y est attachée. Voilà en bref l'idée de ce texte que nous avons ce soir. Et je pourrais, frères et sœurs, que certains d'entre nous ce soir passent par des temps difficiles, ils sont éprouvés, ils sont en difficulté, ils sont en train d'expérimenter peut-être une situation difficile. Quel que soit ce par quoi on passe, nous sommes appelés à nous souvenir de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection et les conséquences de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, afin que nous persévérions jusqu'à la fin et ne pas abandonner la course comme le feraient d'autres. Voilà, frères et sœurs, le contenu pour disons, une brève introduction pour ce soir. Encore une fois, un coup d'œil rapide à ma liste, nous sommes tous déshabitués. Alors, nous pouvons demander la parole et elle nous sera donnée. Nous connaissons les conditions dans lesquelles nous devons prendre la parole et pendant combien de temps aussi l'avoir. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons partager ensemble ce que le Seigneur a mis à notre cœur. Je vais commencer avec Papa José, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, Pasteur. Bonsoir, mes bien-aimés.
Bonsoir.
Je suis au verset 8, qui l'a déjà c'est souviens-toi de Jésus-Christ. Souvenir de notre Seigneur, ce souvenir de Jésus-Christ est une obligation, c'est un impératif. C'est un impératif pour tout enfant de Dieu, tout chrétien ou toute chrétienne, parce que Jésus-Christ, il est la base de notre foi. Nous ne pouvons pas parler du salut sans faire allusion au Seigneur. C'est lui. On peut dire, bon, je crois en Dieu. Il n'y a pas de problème. Je connais Dieu. Connaître Dieu sans Christ, ce n'est pas évident, parce qu'il y a plusieurs dieux. Même si on n'a pas, mais c'est vague, et de Dieu, c'est vague, mais lorsque nous parlons de Jésus-Christ, lorsque on se souvient de lui, on se souvient de sa vie, on se souvient de sa mort et de sa résurrection, là, notre foi est fondée. Là, est fondée parce que c'est lui qui nous a donné le salut.
Papa José?
Oui?
Oui,
j'ai terminé.
Ok, c'est vrai, on essaie aussi de mettre fin à un certain bruit dont on avait détecté la source aussi. Merci beaucoup. Oui, je vais donner la parole au frère Albert.
Merci, mes bien-aimés. Je suis également au verset 8, mais l'esprit me parle plus de la dernière partie de ce verset qui dit « Selon mon évangile ». Mes bien-aimés, cette parole « Selon mon évangile », si on la lit avec l'intelligence humaine, on pourra croire que Paul est en train de s'enorgueillir ici, comme étant lui l'auteur de la bonne nouvelle. Mais bien au contraire, quand nous voyons cela, ici l'Esprit me montre un exemple à suivre à Paul. Paul voudrait que tout un chacun de nous puisse prendre possession. Nous devons prendre possession et, de l'Évangile et réclamer cela comme notre propre bien. Parce que sans cet évangile, nous n'avons pas réellement la base de nous réclamer comme enfants de Dieu. Rappelons-nous, Salomon écria que « Garde ton cœur au-dessus de toutes choses, car c'est cela la source de ta vie. » Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur qu'il y a l'évangile. Et David va dire encore que « Je serre ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche point. » Au fait, Paul ici sert cette parole, il s'en approprie, il est prêt à défendre cela comme un trésor. Nous devons nous approprier de l'évangile comme notre trésor le plus précieux parce que toute notre vie lui dépend. Sinon, nous ne pouvons pas réellement nous réclamer des enfants de Dieu sans que nous puissions avoir ces trésors précieux avec nous et les défendre comme Paul, à n'importe quel prix. Parce que sinon, si nous ne nous approprions pas de cela, devant n'importe quelle petite tentation, nous sommes prêts à céder et nier Christ. Et ça, c'est mauvais. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier et je dois prier que Dieu m'aide à m'approprier de l'évangile et le considérer comme mon trésor le plus précieux, prêt à défendre cela à tout moment et devant n'importe quelle situation pour la gloire de Dieu et pour le salut de mon âme. Merci, que Dieu soit loué.
Merci beaucoup, Albert, pour ton commentaire. Papa Célé, maman Christine, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, papa José, pour la parole. Je prends le verset suivant, le verset 9. Paul exhorte son fils dans la foi de Timothée, en lui rappelant aussi que c'est à cause de la bonne nouvelle qu'il souffre. Et qu'il est même emprisonné à cause de la bonne nouvelle. Mais heureusement, la bonne nouvelle, on ne peut pas l'emprisonner, on peut emprisonner les hommes. Avant cela, nous rappelons qu'il a rappelé à son fils dans la foi, Timothée, qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'ont abandonné. Et ceux qui l'ont abandonné, quand nous prenons le verset 15, il dit tous ceux de l'Asie, de la province d'Asie, l'ont abandonné. Et il va donner l'exemple de l'autre. sache que moi je souffre à cause de l'évangile. Frères et sœurs, ça me frappe tellement parce que c'est tellement la réalité et que quand on vit l'évangile, on prêche l'évangile, c'est impossible qu'on ne souffre pas. Impossible qu'on ne souffre pas. Quand on regarde le mal qui nous entoure, quand on regarde comment certaines personnes vivent, soit sur les lieux de travail, soit parmi les compatriotes, soit même quand on regarde certains pays, comment ils sont gérés, comment la population est gérée, si on est vraiment un enfant de Dieu sincère, on doit souffrir, on doit pleurer, parce qu'il y a des choses qui se font d'une façon anormale. Et Paul le rappelle en disant, « Je souffre à cause de la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est tout simplement parce que l'amour doit être au centre de la bonne nouvelle. Quand il n'y a pas d'amour, on doit souffrir. Et ça m'interpelle, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Nous devons souffrir à cause de la bonne nouvelle. Et c'est normal. Amen.
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 Merci beaucoup. Déjà, trois intervenants qui nous montrent, qui nous rappellent comment nous devons nous comporter face à l'adversité, si celle-ci est liée à notre foi, est liée au fait que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes rappelés ici par Paul, à travers ce qu'il dit à Timothée, de nous souvenir. La souvenance est un exercice que nous devons faire. On dirait que Paul dit à Timothée, nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne sans savoir pourquoi nous menons cette vie chrétienne. Elle ne trouve de sens, elle ne trouve sa raison d'être que dans la personne de Jésus-Christ. C'est lui et lui seul qui en est le commencement, et c'est lui et lui seul qui en est encore la fin. Parce qu'il est le commencement et la fin de notre vie chrétienne, ça veut dire que chaque jour de la vie est un jour qui est bâti, en fait, sur la détermination de continuer la marche, continuer la course, toujours par rapport à Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul dit, c'est l'évangile que je prêche. Ça ne veut pas dire que lui, Paul, il a un évangile différent des autres, de ce que les autres ont proclamé. Il n'y a qu'un seul évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et lorsque Paul dit, c'est mon évangile, en d'autres termes, c'est la parole qui m'a été donnée d'enseigner et c'est cette parole que je continue de proclamer. Lorsqu'elle me cause des difficultés, je persévère. Toi aussi, Timothée, toi aussi, frères et sœurs, c'est pour eux qu'en ce moment, il y a des choses difficiles par lesquelles tu passes. Si cela est dû au fait que tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Jésus-Christ, Paul nous dit aux uns et aux autres, persévérant. Je donne la parole au frère Gaston.
Merci, pasteur, pour la parole. Je reviens au verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. Je suis plus interpellé ici. Lui, Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. C'est qu'il était mort. Hier, nous avons vu comment un soldat engagé réellement dans les combats, comme il est parti à la guerre, et quand on l'envoie à la guerre, comment il se comporte devant l'officier qui lui intime l'ordre d'aller à la guerre, même l'athlète, comment il doit courir selon les règles établies. que je me souvienne de Jésus-Christ. Il est venu, lui, le Fils de Dieu. Il est venu, il n'avait aucun éclat pour attirer les gens du monde, pour que les gens puissent l'admirer autant. Il n'avait pas de villa, il n'avait pas quelque chose physique qui pouvait attirer. Et ce Jésus-Christ, il a tout abandonné. Lui, Fils de Dieu, il a souffert, on a pris de la pierre pour le jeter, il n'avait même pas l'argent, il devait envoyer un de ses disciples aller pêcher pour trouver de l'argent. Il est ressuscité. Et dans Apocalypse, nous voyons, on nous dit qu'il revient bientôt. Que moi, je me souvienne que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il revient bientôt. Que je vive pour Jésus-Christ, que je sache qu'il revient bientôt. Ainsi, quand il y a de la souffrance, quand il y a des difficultés devant moi, je ne cherche pas le pourquoi. Je dis que mon Seigneur a souffert de la sorte. C'est une joie aussi pour moi que j'en souffre. Cela me fortifie, cela me donne encore plus d'énergie. C'est ainsi que les premiers disciples, au lieu d'abandonner la foi, même s'ils apprenaient que tel a été décapité, ils continuaient à servir le Seigneur parce qu'ils vivaient dans cette espérance. Christ revient bientôt. Que Dieu m'aide aussi que je vive à chaque instant de cette espérance, que Christ revient bientôt et que je puisse m'affectionner et accepter tout pour la gloire du Seigneur afin que sa lumière rayonne en moi. Amen.
Merci beaucoup, frère. On se souvient des disciples qui ont été persécutés, frappés, flagellés, lorsqu'ils ont été une fois arrêtés et que par la suite, on leur a interdit de parler au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Actes qu'ils s'en allèrent heureux et contents d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le Christ. C'est un changement de mentalité que nous voyons aujourd'hui. Lorsqu'il y a la souffrance, on a tendance à abandonner, alors que dans l'Église primitive, comme nous voyons au tout début, lorsque les gens, les croyants, les serviteurs, les apôtres et les autres, ils se sentaient heureux s'ils affrontaient des difficultés parce qu'ils appartenaient à Jésus-Christ. D'autres, on dit même que c'est un honneur que de pouvoir souffrir pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Merci beaucoup, frère. Je redonne la parole à Papa José.
Merci beaucoup, frère. Je suis au verset 9, la dernière partie. La dernière partie nous dit « Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. » C'est-à-dire, Paul a parlé de son enchaînement, de son emprisonnement, que je suis en prison. Il n'a pas parlé, cité le mot prison, mais il a utilisé le mot chaîne. Je souffre ici, je suis moi-même enchaîné. Et il termine son raisonnement en disant que la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Oui, c'est vrai. Si nous considérons toutes les persécutions que les chrétiens ont connues et connaissent dans le monde, nous pouvons nous étonner de l'avancement du travail de Dieu. Et même cette Bible que nous utilisons, à un moment donné, il y a eu une persécution contre la Bible. On l'a brûlée à Madagascar, On a brûlé cette parole parce qu'on a dit, si on laisse ce livre ici, il y aura bien sûr le changement d'où il faut brûler. Et dans le pays communiste, à ces moments-là, pas maintenant, la Bible était défendue. Je me rappelle, lorsque j'étais aux études en France, nous avons croisé un Africain, frère africain du Tchad. Nous l'avons rencontré à Paris. Lui vivait à ce moment-là à Moscou. Et il nous raconte, il dit, une fois venu en France et rentré, il a amené la Bible, il l'a mis dans un sachet, vraiment de un sachet sans, de sans valeur. Il a ajouté beaucoup de bonbons, de biscuits, tout ça. Sa Bible était au-dessous. Il a mis sa Bible là-bas, au fond, et il a ajouté des bonbons et des biscuits, des choses comme ça. Et quand on a pris son sac, prenez. Pourtant, la Bible était là. Alors, c'est pour dire que cette parole-là que nous avons aujourd'hui, on l'a combattue et on la combat, mais elle reste toujours la même. Si on persécute dans un coin les chrétiens, mais dans l'autre, les chrétiens sont libres, comme nous ici, en Amérique du Nord, nous sommes libres. Nous pouvons faire la veillée depuis, je ne sais pas à quelle heure, jusqu'à quelle heure. On est bien, on est tranquille, on continue à louer le Seigneur sans problème, tandis qu'ailleurs, un problème. Donc, on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu. Je veux dire, on ne peut pas enchaîner Dieu. Et nous pouvons nous contenter de cette parole que nous sommes en train d'aimer, de lire, de méditer cette parole-là, qui est une parole éternelle. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut vivre que de joie, parce que même si nous mourons, les autres vont continuer. Merci.
Merci, pasteur. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus de l'époque de l'Église du silence torturée pour le Christ, avec des organisations qui ont pu faire aussi entrer des écritures dans des lieux qui étaient interdits à la parole, etc. Un bel exemple aussi de la parole qui ne peut pas être enchaînée se trouve aussi dans le livre des Actes, lorsque Paul et Silas se sont emprisonnés, ils sont enchaînés, ils ont des chaînes aux mains, aux pieds. Pendant qu'ils célèbrent les louanges de Dieu au milieu de la nuit, la prison tremble, les portes s'ouvrent et les geôliers qui voulaient se tuer a été intercepté par Paul. Ainsi, cet homme, cette nuit-là, a pu écouter la parole. Il a été sauvé, lui et sa famille. Même si les disciples étaient enchaînés, mais la parole pour laquelle ils avaient été mis en prison, elle n'est pas enchaînée. Elle peut encore sauver des vies. Et on peut aller comme ça tout le long de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, la parole nous a retrouvés toujours dans son intégralité. Et nous pouvons aussi continuer de la proclamer avec force, même si nous faisons face à l'adversité. Je donne la parole à Papa Thomas.
Je suis au verset 8, et Paul va dire que qu'on se souvienne de Jésus-Christ. Et il dit, c'est que l'Évangile, il va dire que il est ressuscité des morts et c'est un descendant de David selon son Évangile. Et cet Évangile-là,
fait qu'il peut souffrir jusqu'à être traité comme un malfaiteur. L'évangile, c'est quoi? Pourquoi quelqu'un, à cause de l'évangile, il va accepter d'être traité comme un malfaiteur et prêt à mourir même, à être tué à cause de cet évangile? C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort justement de Jésus-Christ pour nos péchés, selon les Écritures. L'évangile, c'est l'enterrement de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Mais aussi l'évangile, c'est l'apparition de Jésus-Christ ressuscité. On l'a vu, vraiment, il est ressuscité. Et celui qui croit en son travail fini de la croix, c'est celui-là qui est sauvé parce que son péché alors peut être enlevé. Et il peut être citoyen du royaume des cieux. Donc l'évangile, finalement, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Il y a une puissance dans l'évangile. C'est le prix payé par Dieu en Jésus-Christ pour nous racheter de l'état de pécheur et nous amener le statut d'enfant de Dieu. L'évangile. C'est à cause de cet évangile que les apôtres ont été tués, d'autres persécutés, beaucoup de gens ont été crucifiés. Et ils ont accepté ça parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle finalement qui nous sauve. Alors, c'est beau de voir Paul écrire ici, souviens-toi de Jésus-Christ et ressuscité des morts, ici de David, selon mon évangile. Merci.
Merci beaucoup, Papa Thomas, de nous rappeler encore, c'est dans le sens de l'évangile. Quelques mots ont été signalés au début de notre méditation encore ce soir. Merci de revenir sur cela parce que lorsque l'on comprend ce que l'Évangile veut dire, alors seulement on est prêt à subir les souffrances sans pouvoir regretter. Merci encore une fois de plus. Je vais donner la parole. J'imagine que c'est... Est-ce que c'est la sœur Rose dont je vois le numéro?
Oui, papa, c'est moi.
Oui, vous avez la parole.
Oui, papa, merci beaucoup. J'ai un petit témoignage. J'allais témoigner depuis hier, mais j'ai hésité toujours. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne la force quand même de confirmer ce que tous les intervenants ont dit. La souffrance à cause de l'évangile. Moi, je me suis convertie en 84. Là où je priais à Bethel à l'unité, là où les femmes portaient quelque chose sur la tête, couvraient la tête et pas de bijoux, rien. Alors, j'ai abandonné, j'ai laissé tout, j'étais esclave de la mode. J'étais esclave de mettre des produits, devenir comme une métisse. Alors, j'avais abandonné tout et je n'avais plus rien. Le Seigneur m'a... vraiment, c'était une école, désert, disons. Je n'avais plus rien, je n'avais plus de moyens. Alors, tout le monde s'est moqué de moi. Ah, celle-là, à cause de l'évangile, elle devient comme ça. Quand j'allais dans ma famille, quand on me voyait, tout le monde fouillait. Il me disait que, il m'appelait Maman Pasteur. Ah, regardez, Maman Pasteur, viens. Alors, je me retrouvais seule. La moquerie, les injures. J'étais là comme, le zèle, nouvelle conversion là, le zèle de l'évangile. Oh, j'étais contente vraiment. Alors, un jour comme ça, je partais à l'église. L'homme que j'avais avant, il est mort, malheureusement. Il a pris, j'avais préparé un moussaka là, bien là, un moussaka vraiment simuliki, dans une grande marmite. Je voulais partir à l'église. Il a pris la marmite, la casserole, il a renversé sur ma tête. J'étais bien habillée, bien coiffée, il a renversé sur ma tête. J'étais calme là, j'ai pris encore la douche, j'ai pris encore d'autres habits et puis je suis partie à l'église. Voilà, donc le mari là, quand il voulait mourir, la personne qu'il avait chassé, parce qu'il y avait des frères qui venaient me voir, il a chassé le frère là. Alors, le frère là, c'est lui qui l'a aidé à accepter Jésus-Christ avant sa mort. Voilà, donc la puissance de l'évangile change. Et aujourd'hui, toute ma famille, presque tout le monde, connaît que Jésus aujourd'hui, servent le Seigneur aujourd'hui. Donc, il y a une puissance là pour l'évangile de Jésus-Christ. Donc, ça paye. Donc, je voulais seulement confirmer, vraiment, excusez-moi parce que je ne parle pas vraiment bien. Parce que vraiment, c'est profond. Alors, je confirme vraiment, il y a la souffrance, hein, mais ça paye. Amen.
Merci Amen. Beaucoup, ma sœur. L'apôtre Pierre dit que en s'adressant particulièrement aux sœurs, il dit que si nos sœurs ont une manière de vivre chaste et réservée, elles peuvent aussi conduire au Seigneur leur mari. Donc la dernière portion de votre témoignage est beaucoup plus éloquente à ces niveaux-là. Si votre premier mari qui est mort a connu le Seigneur. En tout cas, que Dieu soit béni pour la patience que vous avez eue. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Papa Célé, pour Maman Christine.
Merci, Papa, pour la parole. Ce que je voulais dire, les gens ont coupé de gauche à droite, mais je vais quand même dire un mot. Moi, quand je vois et l'interpellation qui est « Souviens-toi de Jésus », qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire là en demandant son fils dans la foi? D'abord, c'est un très bon exemple d'avoir un ministère, mais on a un père spirituel qui est au-dessus, qui sait contrôler et donner des conseils. C'est une interpellation. Est-ce que ce que j'ai fait, j'ai quelqu'un qui peut jeter un coup d'œil pour me donner des conseils? S'il y a des conseils, est-ce que je suis prêt à accepter cela? Quand nous voyons le verset 10, il dit qu'il supporte toutes ces souffrances. Pourquoi? Pour que ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile entendent l'évangile et qu'il ait le salut. Parce que derrière le salut, il y a la gloire éternelle. Pour dire que c'est façon de demander souvenir, pour dire que prêche l'évangile. Parle aux gens, parce que le salut ne se trouve quoi qu'à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il le rappelle. Nous voyons le long de son discours, il dit que l'évangile n'est pas lié pour dire qu'il ne faut pas arrêter, quel que soit on est en souffrance, ce qu'on passe, mais on peut toujours prêcher la parole. Et ça, c'est vraiment une interpellation pour moi, pour dire, mais est-ce que je prêche la parole? Est-ce que si je souffre, pourquoi je souffre? Est-ce que je souffre à cause de l'évangile ou bien je souffre parce que je me comporte d'une façon indigne d'un enfant de Dieu? Amen.
Merci, Maman Christine. Je pense que la question, je peux encore expliciter un peu le questionnement dont Maman Christine vient de parler. Au-delà du sens de se demander quel évangile est-ce que je prêche, elle veut dire quel est le contenu de l'évangile que je proclame. Est-il un évangile qui ne met pas d'accent sur la personne, l'œuvre de Jésus-Christ, ou c'est un autre évangile? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs évangiles, plusieurs soi-disant évangiles. Mais le seul dont Paul nous parle ici, c'est celui dont le frère Thomas a donné l'explication tout à l'heure, le sens de cet évangile, la vie et la mort de Jésus-Christ pour nos offenses, sa résurrection pour notre justification. Est-ce que c'est cela l'évangile, le contenu que je proclame? Est-ce cela la base des déclarations que je fais? Si tel n'est pas le cas, nous devons revenir à cet évangile, le seul, le vrai, celui de Jésus-Christ. Merci, Maman Christine. Je redonne la parole au frère Albert.
Merci, bien-aimé. Je suis vraiment édifié ce soir. Et quand je vois le passage ici, la dernière parole qui dit que la parole ne peut pas être emprisonnée, l'Esprit me montre trois raisons fondamentales pourquoi la parole ne peut pas être emprisonnée. Premièrement, parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec elle et la parole était Dieu. Donc, cette parole qui est devenue chair, qui est Dieu lui-même, représentée en Christ, ne peut pas être emprisonnée parce qu'il n'y a aucune force est capable de mettre en prison Dieu. Voilà pourquoi Christ a été ressuscité et ça c'est l'espérance de tout chrétien, c'est notre victoire finale. Donc réjouissons-nous que la parole ne peut pas être emprisonnée, notre Dieu ne pourra jamais être en prison et par conséquent nous aussi. La seconde raison, la parole ne peut pas être emprisonnée parce que la parole est c'est la révélation de Dieu, de son amour. Dieu a tant aimé le monde. Et donc, tant que Dieu continue à nous aimer, et cet amour qui ne peut pas être exaucé, la parole ne pourra jamais être emprisonnée parce qu'il se révèle à nous à travers la parole. Et finalement, tant que le monde, une grande partie de ce monde, des hommes, de ce monde, des femmes, continue à être dans le péché, on ne peut pas emprisonner la parole jusqu'à ce qu'elle soit prêchée dans le monde entier, afin que, selon les grands désirs de Dieu, tout le monde vienne à la repentance, et pour que le lendemain, personne ne puisse avoir l'excuse de dire « je n'ai pas entendu la parole ». Donc, mes bien-aimés, ça me réjouit, ça me donne la force de connaître que j'appartiens à un Dieu, le Tout-Puissant, qui m'aime, et donc à travers la parole, je sais qu'il vit et je ne pourrai jamais être en prison tant que je serai avec lui. Mais l'interpellation est celle-ci. Est-ce que je fais réellement ma part pour montrer la nécessité de cette parole et la présenter convenablement au monde comme je dois être la lumière du monde? Que l'Esprit m'aide à y faire. Merci, que Dieu soit loué.
Merci beaucoup, frère. Papa José, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, je suis au verset 11. Verset 11, le verset 12 et 13 ont un mot plein qui revient quatre fois, c'est le mot « si ». Et je prends le verset 11 où nous trouvons le premier « si ». Les paroles que voici sont certaines. Quelles sont ces paroles? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ici, l'apôtre nous demande de rester fidèles à notre Seigneur Jésus, même s'il faut mourir. Tout le long de quelques versets qui précèdent le 11e, il parle de souffrance, il parle de sa chaîne. Alors, au verset 11, il arrive, parce qu'il est enchaîné, il est en prison, et il ne sait pas s'il va mourir là-bas. Alors, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était vivant, il était mort, enseveli, et il était ressuscité. Et nous aussi, nous allons le suivre. Nous allons suivre ce chemin. Si nous sommes morts avec lui, avec le Seigneur, nous vivrons aussi avec lui. Parce que lui, il vit. Après sa mort, il vit. Et nous vivrons avec lui aussi. Ça, c'est vraiment bien pour nous encourager à rester toujours attachés à notre Seigneur, parce que nous connaîtrons son sort. Que l'on meure en martyr ou pas, mais on doit mourir. Mais tout en étant toujours chrétien, nous devons savoir que nous serons aussi en vie avec lui, parce que lui, il vit à jamais. Merci.
Merci beaucoup, Papa José. Au fait, le verset 8 jusqu'au verset 10 présente d'abord l'essence de l'évangile de Paul et la raison de ses souffrances. Aussi, en même temps, Paul va dire au verset 10, parce que lui, il a cette intimité personnelle avec le Seigneur et qu'il sait pourquoi, il sait en qui il a cru. Alors, il dit qu'il supporte tout à cause des élus. En d'autres termes, il va dire, c'est un peu, il dit Christ est mort, lui, il a tout enduré pour nous. Si moi, je suis en union, en unité avec Christ, Christ me demandera aussi de vivre, d'être celui par qui aussi d'autres peuvent arriver à le connaître, lui. Alors, Paul va dire, si être enchaîné va aider, évidemment, à en gagner encore beaucoup d'autres, je me contenterai, je vais supporter ces chaînes pour autant qu'elles servent évidemment à ce que Christ soit connu par d'autres. Et puis le verset 11 jusqu'à 13 nous donne alors ces certitudes dont le pasteur a commencé à présenter la première des certitudes qui est au verset 11. Mais avant de continuer dans tout ça, nous sommes pratiquement à la fin. Je donne la dernière intervention à Papa Thomas.
Oui, je voulais renchérir à ce que le pasteur a dit que effectivement, nous sommes morts dans le Seigneur. Nous sommes morts dans le péché, puisque la Bible va dire en Éphésiens chapitre 2, que, au verset 5, que nous étions morts dans nos fautes, dans nos péchés, et Christ nous a rendus, et Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ, parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Et chez les Colossiens, le même Paul va répéter que si nous sommes ressuscités avec le Christ, alors nous allons chercher les choses d'en haut, parce que au fait, nous sommes morts et notre vie, vous étiez morts, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand le Christ va apparaître, nous allons aussi apparaître. Donc, quand le Christ est mort, il est mort avec nous, mais quand il est ressuscité, Dieu nous a ressuscité, nous qui croyons en lui, il nous a ressuscité avec lui et nous avons donc la vie parce que de la mort du péché où nous étions, Christ nous ramène à la vie par notre foi en lui. Mais ce qui touche dans le texte d'aujourd'hui, c'est qu'il est dit aussi que c'est possible que quand nous nous approchons de lui, nous sommes morts avec lui, nous ressuscitons avec lui dans la foi en Christ, mais il y a des gens qui peuvent choisir de le renier. Mais quand on le renie, il ne supporte pas pour dire que non, je vous donne quand même la vie malgré que vous me reniez. Non. Il est dit dans le texte d'aujourd'hui que quand vous me reniez, moi aussi je vous renie. Donc c'est un choix que les hommes ont. Dieu ne va pas forcer les gens au salut. Le salut, il le donne en Jésus-Christ. Quelqu'un peut choisir de ne pas prendre ce salut et Dieu ne va pas le supplier jusqu'à la fin et le forcer d'aller quand même au ciel puisqu'il est bon. Non. C'est possible que les gens renient ce cadeau gratuit et ils vont aussi les rater parce qu'il dit, vous me reniez, je vous renie aussi parce qu'il est fidèle, il ne va pas se renier lui-même, il ne va pas changer. Merci.
Merci, Papa Thomas, c'est bien dit. En fait, c'est un avertissement que le Seigneur nous lance à travers Paul au verset 12. Faites attention. Si vous reniez le Seigneur, en d'autres termes, si vous vous détournez de Jésus, pour penser que le salut peut se trouver en quelqu'un d'autre. C'est le régnement du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Si nous nous détournons de lui pour embrasser une autre doctrine, nous l'avons régné et nous sommes avertis que oui, effectivement, Dieu nous régnera aussi. Mais si nous nous tournons vers lui en croyant sincèrement de tout cœur, le Seigneur nous accueille. Le verset 11 me fait penser à ce que le Seigneur annonçait à ses disciples sur le grain. Il va dire, si une graine qui tombe sur la terre ne meurt pas, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle va libérer la vie et produire encore beaucoup d'autres. C'est le phénomène de la semence que nous connaissons et que même les non-chrétiens connaissent aussi. Lorsque nous plantons une semence, en fait, chaque graine meurt pour libérer la vie et produire encore une tige et puis ensuite des épis et puis ensuite le grain et plusieurs grains encore de même nature. Ainsi, si nous acceptons Christ et que nous le rejoignons dans sa mort et que nous-mêmes aussi nous mourons à nous-mêmes pour être des vrais disciples de Jésus-Christ, c'est comme ça que nous perdons, nous le retrouvons en lui. Et si nous persévérons, en d'autres termes, comme nous l'avons vu au cours des méditations passées, le verbe persévérance est un verbe qui induit inévitablement une difficulté. Parce que s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de douleur, de souffrance, s'il n'y a pas de difficulté en tout cas, il n'y a pas lieu de parler de persévérer. Donc, persévérer inévitablement induit quelque chose qu'il faut surmonter, quelque chose qui va nous coûter. Et l'apôtre Paul dit, si nous persévérons, en d'autres termes, continuons, persévérons pour que nous puissions régner. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas d'abord le combat et la victoire. Donc, il n'y a pas de gloire au bout du compte si nous avons opté aujourd'hui pour la facilité. Et ce que Paul veut enseigner ici à Timothée, c'est que l'évangile qu'il enseigne, ce n'est pas un évangile de facilité. Ce n'est pas un évangile qui consiste à dire qu'avec Christ, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Un tel évangile, ce n'est pas celui dont Paul parle ici, par conséquent, ce n'est pas celui de Jésus-Christ. Donc, si nous persévérons, en d'autres termes, si nous faisons face à l'adversité et que nous triomphons, nous continuons malgré la difficulté, c'est alors que nous régnerons avec le Seigneur. Et cela, à cela est rattaché cet avertissement qu'à ceux qui manquent de persévérer, ceux qui ne veulent pas continuer en Jésus-Christ, en le régnant, alors Dieu les régnera aussi. Le verset 13 finit ici en disant, maintenant, il ne s'agit pas nécessairement de personnes qui ont régné le Seigneur, mais de personnes qui sont tombées à cause de leur faiblesse. Ils sont infidèles à un niveau ou à un autre. Dieu nous rappelle que lui, il demeure fidèle. Ça me rappelle le texte de 1 Jean 1, lorsqu'il s'agit de confesser nos torts, nos fautes. Si nous le reconnaissons, si nous réalisons que nous sommes tombés, revenons vite au Seigneur, confessons nos péchés. La Bible déclare que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et quand il le fait ainsi, il nous permet de continuer la marche, en d'autres termes, de revenir dans la course avec les autres, les yeux fixés sur les chefs et les consommateurs de notre foi. Ainsi, le Seigneur nous gardera toujours. Nous avons autant des sujets de réconfort pour ceux et celles qui endurent des difficultés à cause de leur foi, Nous sommes encouragés à continuer la course, à ne pas abandonner, à ne pas nous fatiguer, mais à réaliser que d'autres avant nous sont passés par là et Christ lui-même, notre Seigneur, nous a précédés. Il est devant nous, il n'y a pas de raison pour nous de reculer, de les garder ailleurs que sur lui. Peu importe ce qui va arriver, cet évangile auquel les FIMES a adhéré, les FIMES croit, cet évangile que vous et moi faire, nous avons, dans lequel nous avons cru, nous devons persévérer dedans. L'apôtre avait fait une déclaration solennelle devant les Juifs qu'il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce message porté par les apôtres nous a atteint aujourd'hui. À nous de le proclamer et de le passer aussi aux autres afin que la proclamation de l'Évangile continue, démontrant ainsi que la parole de Dieu ne peut pas être liée. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir. Papa Célé, est-ce que nous avons des annonces?
Oui, merci Papa José. Juste rappeler à tous nos membres qu'il ne nous reste que 66 jours pour les camps. Donc, nos jours sont comptés pour que nous puissions nous voir ensemble. Ça, c'est un, deux. À la radio, nous avons beaucoup de frères et sœurs depuis Wisconsin, Massachusetts, Québec, Alberta, Ontario, et nous bénissons le Seigneur pour tous ces frères et sœurs. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Pour demain, nous allons continuer la suite de ce chapitre, c'est-à-dire 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 26. Et nous aurons les questions les plus fréquentes, questions 3 et 7, pour nous aider à méditer. Je vais demander à Papa Médard, est-ce que vous m'entendez?
Oui. Alors, oui, je vous entends.
Est-ce que vous pouvez prier le Seigneur pour nous, s'il vous plaît?
Oh, merci. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ce temps que tu nous as donné. Oui, c'est une grâce, Seigneur, pour nous d'en avoir. Parce que ce que nous avons maintenant, c'est toi qui nous donnes. Mais le futur, nous ne savons pas. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu viens de nous rappeler, Seigneur Dieu. Oui, Papa, quand nous sommes en train de méditer, je pensais même à ceux-là qui étaient en Jésus-Christ, qui croyaient en Jésus-Christ, mais qui ont renié, qui ont dit que Jésus, c'est un aventurier. Jésus n'est pas mort pour toi. Jésus n'est pas mort pour nous. Oh, Seigneur, ces choses-là arrivent dans ce monde. Mais Seigneur, préserve-nous de tout cela, Seigneur Dieu. Nous pouvons tomber. Mais grand Dieu, merci parce que tu nous gardes encore dans cette voie que tu nous as donnée. Tu nous as aidé, Seigneur Dieu, à accepter Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous voulons continuer avec lui. Oui, Seigneur Dieu, tu venais nous rappeler que si nous renions Jésus-Christ, lui aussi il va nous renier. Oh Seigneur Dieu, c'est grave pour notre vie future. C'est grave pour notre vie éternelle. Où est-ce que nous allons être? Oui, Papa. Seigneur Dieu, pour que les gens connaissent ce Jésus, tu veux aussi utiliser chacun de nous, Seigneur Dieu. Tu nous as parlé, Seigneur Dieu, tu nous as dit que nous devons faire ton travail. Allez, faites de toutes les nations les disciples, Seigneur. Seigneur Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Oui, parfois nous disons nous n'avons pas le temps. Nous sommes trop occupés, surtout en Amérique du Nord, Seigneur. Mais grand Dieu, aide-nous à faire ton travail. Parce que, Seigneur Dieu, nous aurons la récompense que toi, tu es en train de nous réserver. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Merci parce que tu as interpellé chacun de nous. Merci Seigneur de pour ceux-là à qui tu as donné des idées pour faire sortir. Et merci parce que nous savons que c'est venu de toi. Seigneur Dieu, merci. Parce que tu seras avec nous pendant que nous allons nous reposer, pendant que nous allons dormir. Oui, grand Dieu. Merci parce que tu as utilisé ton enfant, le pasteur José, pour nous diriger pendant cette soirée. Et merci, Seigneur Dieu, de bénir sa famille et toute sa famille et tout ce qu'il fait, Seigneur Dieu. Son église, Seigneur Dieu. Son travail avec toi. Oui, Papa, nous te prions aussi de bénir chacun de nous, Seigneur. Merci encore une fois de penser à nous, à Fimes, pour que nous continuions à nous accrocher à toi. Oui, Papa, il nous reste 66 jours pour notre camp biblique. Mais Seigneur Dieu, nous savons, c'est ta volonté que nous puissions nous réunir ensemble pour écouter ta parole. C'est une grande fête, comme notre coordinateur appelle la grande fête, Seigneur Dieu. Nous voulons y être. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas donner des moyens pour que nous soyons là. Et merci, Seigneur Dieu, pour tous les dons que tu as prévus et que tu sais qui vont donner les dons, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour cela. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Merci encore une fois de bénir toutes nos familles représentées. Et merci parce que tu continues à être avec nous. Et tu seras avec nous dans ce ministère, Seigneur Dieu, que tu as donné par ton enfant, Célestin et Christine, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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 Merci, Papa Meda, pour la prière. Bonne soirée à tout le monde. Et nous nous remettons tous entre les mains de Dieu pour recevoir sa grâce et nous retrouver encore demain. Bonne soirée.
Merci.